bonjour ou bonsoir, vous êtes avec les Neveux de René Chemin de Pensée, une émission dédiée à la découverte des textes classiques de la philosophie. Et aujourd'hui, nous allons faire une excursion dans la littérature, puisque à l'heure où l'épidémie de coronavirus continue à faire son œuvre de dévastation, à l'heure où beaucoup d'entre nous vivons des moments difficiles, des deuils aussi, à l'heure où on parle aussi beaucoup des questions liées à l'euthanasie, à la fin de vie, nous souhaitons voir comment la philosophie et la littérature, conjointement, peuvent nous aider à continuer à approfondir cette question de la mort, question que nous avions déjà abordée avec Montaigne, avec Platon, avec Sénèque, avec un texte d'Olivier Rey. Et nous souhaitons poursuivre dans la même direction avec une nouvelle, donc court roman de Tolstoï qui s'appelle « La mort d'Ivan Illich » et qui est sans doute une des œuvres les plus emblématiques pour réfléchir à la question de la mort. Alors, je suis en compagnie d'Annie Thévenot, Anne Bonneau et Sylvain Contasso-Vivier.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors, cette nouvelle de Tolstoï, on en a parlé la dernière fois parce qu'elle a été évoquée notamment par Olivier Rey dans son essai qui s'appelle « L'idolâtrie de la vie »,« vie » entre guillemets, paru chez Tract Gallimard, c'est paru en juin 2020. Bon, c'est un texte qui fait réfléchir sur la position que nous avons eue politiquement, nous, le nous collectif, vis-à-vis de la pandémie causée par le coronavirus. Et on s'était dit que c'était peut-être une piste intéressante pour continuer à réfléchir là-dessus. Alors, pour démarrer, on va peut-être donner la parole à Anne. Alors, Anne, tu l'as lu, tu as ressenti beaucoup de choses à la lecture de ce texte. Et peut-être tu peux nous livrer ton point de vue, une petite synthèse. Et puis ensuite, on ira regarder de plus près les différentes parties et de ce que nous dit Tolstoï.
Ok. Donc, c'est un livre qui parle de la mort. Hein. Le titre, c'est « La mort d'Ivan Illich ». Mais en fait, il parle tout autant de la vie. Vie et mort sont étroitement liés tout au long de l'œuvre. D'ailleurs, un des coups de maître de l'auteur, c'est d'avoir placé l'annonce de la mort d'Ivan Illich et ses répercussions. Alors, quelles sont ses répercussions? C'est le fait qu'il n'est pas vraiment regretté par la plupart des gens, que ses collègues, il est juge, hein, que ses collègues voient une opportunité d'avoir un poste et que sa veuve pense surtout à l'argent. Donc il a placé l'annonce de la mort d'Ivan Illich et ses répercussions au début de la nouvelle. Et c'est seulement ensuite qu'apparaît le récit de sa vie. Donc finalement, toute la vie d'Ivan Illich apparaît à travers ce prisme. Le prisme de sa mort et le prisme de ce qu'il laisse. C'est un peu une manière de nous dire que nous devrions vivre en pensant avant tout que nous sommes mortels et en nous préoccupant de ce qui compte réellement lors de notre passage sur la Terre. Le texte parle aussi beaucoup du besoin qu'on a des autres. Il parle de compassion et il parle d'égalité. C'est un thème cher à Tolstoï, ça, l'égalité. Et lors de la mort et de l'agonie, de la longue et la très très pénible agonie d'Ivan Illich, finalement, il y a une seule personne qui s'occupe d'Ivan Illich et qui lui apporte un peu de compassion. C'est un domestique qui s'appelle Gerasim. Et on s'aperçoit que malgré toute l'apparence dignité que nous confère une profession ou une richesse, on a tous besoin de compassion. En aparté, du reste, ça peut aussi nous faire réfléchir sur la notion de dignité. Qu'est-ce que la dignité, hein ? Et pour revenir au terme donc de la compassion, on voit qu'on est tous égaux, qu'on a tous besoin des autres. Et dans le livre, c'est justement le plus petit, le plus apparemment insignifiant qui apporte cette compassion. Alors pour parler aussi d'égalité, Tolstoï en parle très bien lorsqu'il décrit le masque mortuaire, ou plutôt la figure de mort, du visage mort d'Ivan Illich. Il n'arrête pas de répéter « comme tous les mortels », c'est dit, c'est répété, c'est martelé tout au long de la description. Et là, ce n'est pas du reste sans nous rappeler Charles Péguy qu'on aime tant, sauf que c'est quand même un peu plus démesuré dans l'œuvre de Charles Péguy que cela ne l'est dans le roman. Donc je voulais dire aussi qu'il y a énormément d'humour dans le texte, puisque finalement, l'auteur nous dit, et ça aussi c'est vraiment, c'est vraiment dit, l'auteur nous dit que toute la vie d'Ivan Illich a été consacrée à la bienséance. Alors ça, c'est dit, c'est répété, c'est martelé tout au long du texte, on ne peut pas passer à côté. Et c'est quoi la bienséance ? La bienséance, pour Ivan Illich, c'est ce que pensent ceux qui ont réussi, entre guillemets, et c'est ce que pensent donc ceux qui sont de la bonne société, toujours entre guillemets. Alors déjà, on a vu tout au début du livre que ce n'est pas forcément ce qui compte, hein, finalement, à l'heure du bilan, à l'heure de sa mort. Mais ensuite, on voit, non sans un certain humour, apparaître la mort et l'agonie comme quelque chose de malséant, justement, comme quelque chose de contraire à la bienséance. Et finalement, c'est ce refus d'accepter la mort par la société bienséante qui fait tant souffrir Ivan Illich. Alors il y a aussi de l'humour un peu dans tout le texte, avec par exemple les gens minables, toujours entre guillemets, qui viennent rendre visite à Ivan Illich et qui apparaissent très déplacés au milieu de tous ces beaux vases japonais, et on comprend bien qu'il faut se débarrasser de ces minables. Un tout petit reproche, d'abord je voudrais dire d'abord comme immense qualité du texte, mais c'est un peu ce que fait tout, ce qu'on a dans tous les très très grands livres, dans tous les très grands auteurs, c'est qu'il n'y a pratiquement pas une phrase dans le livre, pas une phrase qui ne nous dit quelque chose, qui ne nous apporte quelque chose, hein. Et du reste à chaque fois qu'on lit on dit ah oui tiens j'avais pas vu telle ou telle chose, c'est un livre très très riche, voilà. J'ose à peine dire un reproche, peut-être je peux me permettre d'en dire un, mais c'est vraiment tout petit, tout petit. C'est que bon, c'est vrai que c'est des grands termes qui sont bien connus, que ça a été vraiment bien balisé, à part peut-être certains points plus précis. Mais voilà, bon, c'est la lumière, c'est l'éclairage qu'apporte l'auteur et qui est aussi très intéressant.
Ben merci beaucoup, hein, merci, c'est très riche. On voit que tu t'es plongé dans ce texte avec passion, avec beaucoup d'intérêt. Alors, essayons un petit peu maintenant de voir quels sont les enseignements philosophiques qu'on peut tirer de ce texte. Donc, tu as évidemment parlé de la question de la compassion. Alors, moi, immédiatement, quand tu as dit compassion, j'ai pensé à un autre sentiment qui est son envers finalement, c'est la haine. Parce que quand même, la plupart du temps, Tolstoï nous raconte la haine qui est ressentie par le mourant vis-à-vis de ceux qui restent. Est-ce que Annie et Sylvain, vous voulez commenter ce point-là ?
Ben, la haine, c'est l'envers de l'amour.
Voilà.
Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai lu. C'est-à-dire qu'au fil de sa longue agonie, il découvre ce qui lui a manqué. Hein, c'est-à-dire cette dimension humaine, cette bonté qui est chez Gerasim. Et c'est ce qu'il a connu dans son enfance, puisque... il remonte à son enfance. Je ne sais pas s'il faut parler de la mort, mais en tout cas, la mort, dans un premier temps, n'est pas pour lui. Il fait un bilan en disant qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Et il s'est comporté comme il le fallait, conformément à la bienséance. Et donc, d'une certaine manière, c'est injuste qu'ils doivent mourir. Donc, cette mort, de façon assez récurrente au fil de la nouvelle, il la refuse. Il y a une forme de révolte. Et il cherche des faux fuyants. Il peut s'appuyer sur l'avis des médecins. Oui, c'est le sécom et je ne sais quoi, le rein. Et puis la douleur le rappelle à lui. Enfin, il y a une alternance comme ça de réflexions qui sont liées à la présence du corps. C'est-à-dire, il va découvrir que cette douleur va le ramener sans cesse, de plus en plus fréquemment à la mort, jusqu'à ce que cette mort apparaisse dans une espèce d'allégorie qui est présente dans l'un des chapitres où elle lui parle. Il a beau vouloir la fuir, elle est toujours, elle est là devant ses yeux. Et ça, c'est quelque chose qui va rester présent tout au long de la nouvelle jusqu'à ce que, à la fin, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre, il y ait ce dédoublement où c'est la voix de son âme qui l'interpelle. Et c'est dans ces derniers chapitres qu'il va découvrir au fond ce qui a été de bien dans sa vie. Enfin, voilà comment moi je l'ai lu. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, On peut dire que, je ne sais pas si ça lui apporte de l'apaisement à certains moments, oui, mais bon, il y a une énigme à la fin, puisque c'était Cécile qui l'avait souligné, il y a cette vision de la lumière. Il y a les deux dernières pages qui sont assez troublantes. La douleur disparaît d'une certaine manière, il chercha son et la peur aussi. Il chercha son ancienne peur et il ne la trouva pas. Où était-elle? Quelle mort? Il n'y avait pas de peur parce qu'il n'y avait pas de mort. Au lieu de la mort, il y avait la lumière. Et je ne sais pas, ça c'est vraiment quelque chose à quoi on n'a pas vraiment de réponse. Et à la fin, c'est fini la mort, il n'y a plus de mort. Mais ce qui me paraît positif, c'est la leçon qu'on peut tirer, c'est que ce temps-là, ce n'est pas du temps perdu et c'est quelque chose qui peut nous parler. C'est-à-dire que celui qui est appelé à disparaître, certes, il y a la haine. Je pense qu'il y a toutes les phases que peut connaître quelqu'un, même maintenant, face à une maladie et une souffrance telle que apparemment, aucun de ces doctes médecins ne peut apaiser.
Oui, hein. Alors ça, c'est intéressant. Tu viens de dire une chose, tu as parlé de phases. Oui. Et je crois que c'est le génie de Tolstoï, c'est d'avoir perçu que c'était une transformation d'un être humain. Donc c'est vraiment la mort comme chemin à parcourir.
C'est comme ça que je l'ai perçu, avec des étapes. Je t'avais parlé du bouquin de Ziegler qui a étudié ça aux États-Unis, avec collaboration avec une femme médecin dont j'ai oublié le nom. Mmh. Et la nouvelle de Tolstoï, elle décrit vraiment ces différentes phases, le déni, la révolte, la haine pour ceux qui sont en bonne santé. Je ne veux plus vous voir, vous êtes fiché le camp, lui dit à un moment donné. Vous êtes en bonne santé, je ne vous supporte plus. Mmh. Vous êtes tous des menteurs. La mort existe bien parce que pour les autres, ceux qui sont prêts à prendre sa place, c'est pas possible. Ils voient le visage de ce mourant, mais c'est pas possible, ils sont pas concernés.
Oui, tout à fait. On peut peut-être donner la parole à Sylvain et ensuite on donnera la parole à Anne qui nous lira des extraits qui illustrent ce que vient de dire Annie.
Oui, donc effectivement, le texte est assez est complètement intéressant sur la partie vraiment, comme tu disais, de réflexion sur la mort, en fait. Quand Ivan Illich est un peu torturé par sa propre mort, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez bien décrit et qui est effectivement, qui a une portée universelle. Et d'ailleurs, sur les réflexions dont tu parlais concernant le fait de faire un peu le bilan de sa vie, de savoir, à un moment, il le dit, d'ailleurs, est-ce que sa vie a bien été ce qu'elle devait être? Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait vraiment penser, justement, au niveau philosophie, quelque part à une des grandes, un des grands centres d'intérêt des philosophes anciens qui était justement, c'est quoi bien vivre?
Oui,
quelque part, quand on parle peut-être parfois dans certaines civilisations de préparer sa mort, est-ce que c'est pas justement de se préparer à partir sans regret? Et donc d'avoir bien vécu. Bien vécu, bien sûr, dans le sens où ce qu'on entend, que sa vie corresponde à ce qu'on imagine qu'elle aurait dû être.
Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça nous renvoie au texte d'Olivieret qu'on avait commenté la dernière fois, précisément. Dans le sens où bien vivre, ce n'est nullement s'éclater, c'est pas du tout ça. Bien vivre, c'est justement avoir en tête ce que l'humanité exige de moi en tant qu'être humain.
Oui, puisqu'on peut ce qu'on peut attendre de sa propre vie, ce qu'on espère en faire.
Exact.
Et le problème vient, la souffrance vient du décalage entre ce qu'on a espéré en faire et ce qu'on a réellement fait.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que précisément, ça veut donc dire que, on parlait des mortels que nous sommes. Mortel n'est pas un défaut, c'est pas un problème. C'est notre condition. Comme quoi, nous devons répondre à quelque chose.
Oui.
C'est bien ça. Alors Anne, tu voulais peut-être nous lire des extraits, parce que c'est bien de se plonger dans l'œuvre.
Oui, parce qu'en fait, je voulais dire, Annie donc, a parlé du chemin à faire. Je voulais dire aussi que Cécile, on a préparé l'émission avec Cécile Delobel, qui nous a beaucoup apporté.
Tout à fait. Alors,
à Cécile.
Oui, on va beaucoup remercier Cécile Delobel, qui est professeure de philosophie à Reims, qui a pas pu être avec nous. J'espère qu'une prochaine fois, quand les restrictions de voyage, elle pourra venir enregistrer une émission avec nous. Mais effectivement, on la remercie beaucoup pour sa présence pendant la préparation.
Aide, oui. Voilà, et donc Cécile nous a parlé du chemin à faire, effectivement, ces derniers mots un peu énigmatiques quand même, hein, s'y pose question. Oui. Donc Annie a aussi repris ça, et finalement, quand on regarde bien, eh ben, ceci apparaît dès le début du texte, quand il parle de la mort.
Ah, alors,
si vous voulez, je vais vous lire quelque chose qui à la fois parle de ce qui est propre aux morts, voilà, là où je parlais de répétition, et à la fois, on remarquera peut-être une phrase sur ça. Hein.
Alors, simplement, c'est dans le chapitre 1.
Alors, je ne sais pas dans quel chapitre c'est relativement au début, puisque dans mon livre, c'est le chapitre 1.
Oui, d'accord.
Voilà. Alors, le mort gisait comme tous les morts, avec cette lourdeur propre aux morts. Ses membres raidis, enfoncés dans le capitonnage du cercueil, sa tête à jamais courbée, reposant sur l'oreiller, et il offrait au regard, comme tous les morts, son front jaune et cireux, avec ses tempes creuses garnies de mèches rares, et son nez proéminent qui semblait retomber sur sa lèvre supérieure. Il avait beaucoup changé, encore maigri depuis la dernière fois que Piotr Ivanovitch l'avait vu. Mais comme tous les visages de morts, le sien était plus beau, et surtout plus impressionnant qu'il ne l'avait été de son vivant. Il exprimait, ce visage, que ce qui devait être fait était fait, et fait comme il fallait. En outre, son expression contenait aussi un reproche ou un avertissement adressé au vivant. Cet avertissement parut déplacé à Piotr Ivanovitch, du moins en ce qui le concernait, lui. Voilà. Donc il me semble qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà,
choses,
ce dont j'avais parlé,
choses, oui,
comme tous les morts. Bon, ça, c'est le grand thème, on est tous égaux devant la mort, on a bien compris. C'est bien répété, c'est bien martelé, mais c'est très bien fait en même temps. Il y a aussi l'image de ce visage qui était beau. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose, ce thème du visage apaisé. Oui, on est mort, on est apaisé.
Oui,
et ensuite, ce qui fait directement penser au chemin, au fameux chemin à faire, c'est écrit là dès le début. Il exprimait ce visage que ce qui devait être fait était fait et fait comme il fallait.
Oui. Alors, dans ma traduction, moi, j'ai son visage exprimé ce qu'il fallait faire, que ce qu'il fallait faire avait été accompli.
D'accord.
Et bien accompli.
D'accord.
Alors, je trouve que c'est pas mal parce que ça montre la dimension philosophique de l'accomplissement.
Oui.
Un être humain est dans l'accomplissement, c'est ce qu'on disait, Sylvain.
Ce que tu veux dire, c'est comme s'il avait trouvé un sens à sa vie.
Oui.
D'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Et le sens, effectivement, c'est comme si le sens se révélait dans la fin. Puisque elle n'est plus dépendante des autres. En fait, on vit sous la coupe de l'image qu'on se fait des autres. Nous sommes un être. Heidegger parle de l'être avec les autres. Et il y a différentes façons d'être avec les autres, plus ou moins authentiques. Oui.
Pour le coup, là, dans le contexte de l'histoire d'Ivan Illich, je ne sais pas si on peut dire vraiment que sa vie a vraiment été ce qu'elle devait être, puisque justement, il s'en plaint. Il s'en plaint. C'est plutôt qu'il a réussi, on va dire qu'il a réussi à faire la paix avec lui-même, d'une certaine façon, et à trouver plutôt un soulagement, peut-être, de dire, bon, bah, j'ai peut-être pas fait ce que j'aurais voulu, ou enfin, ma vie a peut-être pas été ce que j'aurais aimé qu'elle soit, mais quelque part, il arrive à trouver une sorte de résolution de ça.
Oui.
Peut-être que c'est ça ce qui peut être exprimé là aussi.
Oui,
parce que de toute façon.
Le terme de résolution est un terme fort, bien sûr.
Voilà, il y a peut-être cette dimension-là.
Oui,
en fait.
Comme en musique, tu sais, en musique, il y a la résolution de quelque chose. Eh bien, sans transition, nous allons parler de musique. On va faire une petite pause musicale. nous étions avec le Lacrymosa du Requiem de Mozart.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, nous reprenons la discussion avec Léon Tolstoï. On parlait de résolution, d'un chemin qui s'accomplit et de la mort non pas comme négation de quelque chose, comme fin, mais fin peut-être, on commence à voir que fin peut avoir différents sens. Non pas que la fin soit quelque chose de facile, de simple, nous ne disons pas ça, et le roman de Tolstoï montre, on l'a dit, tous les sentiments qui peuvent exister. Mais néanmoins, quelque chose s'accomplit, et quelque chose de la dimension humaine. Alors, peut-être est-ce qu'on peut lire certains extraits, soit on lit la toute fin du roman, au risque de divulgager, comme on dit, la chose. Mais néanmoins, peut-être on peut dire quelque chose aux auditeurs, c'est que, personnellement, moi je l'ai lu ce texte, et en discutant avec vous, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses que je n'avais pas vues à la première lecture. Aussi, je crois que même si l'auditeur entend certaines parties ou connaît l'histoire, le fait de relire ce texte, c'est vraiment un texte qu'on peut lire plusieurs fois. Et à chaque fois, comme le disait Anne, on est saisi par ce que ce texte a à nous dire.
Oui, ouais. Oui, parce que de toute façon, ce qui est important, c'est tous les détails de description qu'il peut y avoir au fil du roman.
Exactement, exactement. Et c'est fait d'une main de maître. C'est fait d'une main de maître. Oui. Alors, Anne, est-ce que tu souhaites nous lire ce fameux chapitre 12 où tout se résout? Peut-être à la fin du troisième jour, quand il dit « Oui, ce n'était pas cela du tout ». Se dit-il, mais ce n'est rien. Cela peut-il encore se faire? Quoi cela? Et soudain, il s'apaisa.
Il y a une belle correspondance quand même, pardon, entre la phrase que tu as lue dans le premier chapitre, cette espèce d'apaisement, et la lumière. Hein. Il y a tout un jeu entre le trou noir et la lumière dans ce dernier chapitre.
Oui, oui. Ouais. Tu veux peut-être lire le début où il est question de trou noir, parce que moi j'ai encore une autre traduction.
Tout au long des trois jours durant lesquels le temps n'exista plus pour lui, il se débattit dans ce sac noir où l'avait enfoncé l'insurmontable et invisible puissance. Il se débattait comme le condamné à mort se débat entre les mains du bourreau, sachant qu'il n'y a pas de salut pour lui. Et de minute en minute, il sentait que malgré tous les efforts dépensés à lutter, il se rapprochait toujours davantage de ce qui l'épouvantait. Il sentait que la torture consistait pour lui à la fois dans le fait qu'il s'enfonçait dans ce trou noir et plus encore dans le fait qu'il ne pouvait pas le franchir. Ce qui l'en empêchait, c'était la conviction que sa vie avait été bonne. Et cette justification de sa vie, c'était elle qui l'agrippait, l'empêchait de progresser et le torturait plus que tout.
Chemin de pensée sur RCF.
Voilà, alors là, il faut bien expliquer à l'auditeur, aux auditeurs, que le bon, c'est selon son propre point de vue. Et on sent que c'est un faux bon.
Oui.
Quoi,
hein. Oui.
C'est-à-dire que c'est... Là, il est encore en train
de se raccrocher.
Mais comment ça peut m'arriver?
À la bienséance.
Voilà, on pourra revenir tout à l'heure à cette histoire. Comment ça peut m'arriver à moi alors que j'ai tout bien fait?
Oui.
Voilà. Ça, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un mystère. Il y a une énigme. Et finalement, au moment où il lâche, finalement, c'est comme si la mort n'était présente que dans la mesure où il s'accroche à ces bribes d'anciennes.
Oui,
illusion, quoi.
C'est assez paradoxal.
C'est paradoxal. Il y a un paradoxe.
Oui.
Voilà. Sylvain, tu veux aussi lire peut-être un passage et puis après on donnera la parole à Anne.
Continue. Tout à coup, une force quelconque le frappa dans la poitrine et le côté. Il suffoqua. Il était précipité dans le trou noir et là, au fond, quelque chose brillait. Il éprouvait ce qu'on éprouve parfois en chemin de fer. Quand on croit avancer tandis qu'on recule et que, tout à coup, on s'aperçoit de son erreur. Oui, ce n'était pas cela, se dit-il. Mais cela ne fait rien. On peut encore réparer cela. Quoi cela ? Se demanda-t-il. Et soudain, il se calma.
Oui. Alors ça comment vous traduction. Oui, on n'a pas la même traduction, on n'a pas la même traduction. C'est assez curieux, hein, ce passage. Il est bizarre. Il dit que c'est comme en chemin de fer quand dans un wagon, quand on croit avancer, mais en fait, on s'aperçoit qu'on est en train de reculer. Comment vous l'avez lu, ce passage? Comment vous l'avez compris?
Mais il y a à la fois ce qui le ramène à la société qui est du côté du mensonge, en fait, qui fait qu'à certains moments, il dit « j'ai vécu comme j'aurais dû vivre ». Et puis, dans le sens inverse, je peux dire, les deux mouvements, le train avance. On peut imaginer que le train avance vers l'issue fatale et qu'en même temps, il est ramené au temps de sa vie. Enfin, on peut défendre les deux, d'ailleurs. Mais plutôt, le train va vers l'issue fatale.
Oui, mais surtout qu'il voit la vraie direction. Oui, il y a l'idée de la vérité.
La vraie direction, ouais, la vraie c'est direction. L'issue fatale.
Voilà.
Oui.
Et peut-être, donc, il pensait qu'il allait en arrière, il va en avant, ou alors il pensait qu'il allait en avant et il se rend compte qu'il va en arrière. Enfin, c'est très difficile de comprendre. Il y a une dimension mystérieuse, je trouve, dans ce passage.
Mais jusqu'au bout, il est tiraillé.
Il est tiraillé.
Il est tiraillé jusqu'au bout. Et je trouve que tu parles de résolution, mais il y a le petit lycéen qui a son importance à la fin, qui participe de la résolution.
Alors, c'est son fils, c'est ça?
C'est son fils.
C'est son fils.
C'est le fils qui est, lui, affecté par autant.
Oui, enfin, le plus petit.
Le plus petit, c'est apparemment, si je ne me trompe, celui qui est le plus affecté par la mort de proche de son père.
Oui. Hein.
Et c'est ce que tu voulais dire, Anne, c'était à la fin du troisième jour, là, le petit lycéen. Mm-hmm. Parce que je pense qu'elle est là, pour moi, elle est en route, la résolution.
Oui, alors avançons sur ce chemin. Anne, tu veux continuer la lecture?
Oui, vous êtes arrêtée à c'est la fin du troisième jour?
Oui.
Oui.
C'était la fin du troisième jour, une heure avant sa mort. À ce moment précis, le petit lycéen s'était faufilé tout doucement chez son père et approché de son lit. Le mourant criait encore désespérément en agitant le bras. Une de ses mains rencontra la tête du petit lycéen. Celui-ci la prit, la pressa contre ses lèvres et pleura. Ce fut à ce moment précis qu'Ivan Ilitch tomba, vit la lumière et découvrit que sa vie n'avait pas été ce qu'il fallait, mais qu'elle pouvait être encore corrigée. Il venait de se demander « Mais c'est quoi ce qu'il faut ?» et s'était tu. Guettant une réponse, quand il sentit que quelqu'un lui embrassait la main. Il ouvrit les yeux et regarda son fils. Il eut pitié de lui. Sa femme s'approcha, il la regarda, la bouche ouverte, le nez et la joue zébrée de traces de larmes. Elle le regardait avec une expression désespérée. Il eut pitié d'elle. « Oui, je les torture, pensa-t-il. Ils me plaignent, mais ils se sentiront mieux quand je serai mort. » Il voulait dire cela, mais il n'eut pas la force d'articuler. D'ailleurs, à quoi bon parler? Il faut agir, pensa-t-il. Du regard, il désigna leur fils à sa femme et dit « Emmène-le, il me fait pitié. Toi aussi. » Il voulut encore dire pardon, mais il dit passer. Et n'ayant plus la force de se corriger, il renonça, sachant qu'il serait compris par qui voudrait le comprendre. Et soudain, il fut clair pour lui que ce qui lui pesait et ne parvenait pas à sortir de lui, que tout cela sortait enfin d'un coup, de deux côtés, de dix côtés, de tous les côtés. Il avait pitié d'eux. Il devait faire en sorte qu'ils n'aient pas mal, les délivrer et se délivrer lui-même de ses souffrances. Comme c'est bon et comme c'est simple, pensa-t-il. Et la douleur, se demanda-t-il, où est-elle partie? Oh là, douleur, où es-tu? Il se mit à l'écoute. Oui, la voilà. « Bon, c'est la douleur, soit. Et la mort, où est-elle ?» Il chercha son ancienne peur, sa peur habituelle de la mort, et ne la trouva pas. Où était-elle? Quelle mort? Il n'y avait pas de peur, parce qu'il n'y avait pas de mort. Au lieu de la mort, il y avait la lumière. « C'est donc cela ? » dit-il soudain à voix haute. « Quelle joie !» Pour lui, tout cela s'était passé en un instant. Et dès lors, le sens de cet instant ne changea plus. Mais pour les personnes présentes, son agonie dura encore 2 heures. Sa poitrine émettait des gargouillements. Son corps émacié tressautait. Puis les gargouillements et les râles s'espacèrent. « C'est fini !» dit quelqu'un au-dessus de lui. Il entendit ces mots et les répéta en lui-même. « C'est fini la mort, se dit-il. Il n'y a plus de mort. » Il prit une goulée d'air, s'arrêta au milieu de l'aspiration. Son corps se raidit et il mourut.
Chemin de pensée sur RCF.
Merci Anne, très très belle lecture, très très émouvant. Comme je l'ai dit, on a beau lire 50 fois ce texte, on est pris hein, par ouais, quelque oui. chose de très 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 fort. Fort hein. Alors,
là, ce qui est oui, Sylvain. Intéressant dans cette partie, c'est la dernière partie, c'est justement tout cette ce pardon et la pitié qu'il éprouve envers ses proches. Et qui laisse penser que peut-être lui-même s'est trompé en fait sur le regard qu'il leur a porté oui, avant, oui, par rapport à oui, sa colère de oui, la mort, oui, le fait qu'il oui. savait qu'il allait partir.
C'est ça.
Donc là, il y a vraiment un retournement de situation qui est intéressant, je trouve.
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le long de la nouvelle, c'est quand même une certaine haine qui est prise. Et Tolstoï insiste beaucoup là-dessus. On a l'impression que la douleur qu'on appellerait aujourd'hui psychologique, enfin l'âme est tellement torturée pour différentes raisons, mais ça s'en va, ça s'en va, et ça c'est remarquable. Oui. Il y a quelque chose de fort, et je crois qu'on a un trait de l'humanité, c'est-à-dire que encore une fois, on voit pas un animal meurt et un animal peut sans doute avoir la conscience qu'il est en train de mourir, mais ce côté d'accomplissement, de résolution, comme tu dis, de la dimension du pardon, tout cela, c'est proprement humain, quoi.
Bah oui, complètement, oui. Et on voit, en fait, dans tout ce livre, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment un appel, un peu comme je disais tout à l'heure, un peu comme les philosophes anciens, à essayer de ne pas faire de concessions sur la façon de bien vivre. Parce qu'on le regrette, enfin, vous voyez, au dernier moment, ça peut être quelque chose de.
Oui, oui. Et alors, torturant. C'est ça qui est intéressant quand même, c'est une remarque qu'avait dite Cécile de Lobel, je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est est-ce qu'il n'y a pas en chacun d'entre nous un Ivan Illich ?
Mais oui.
Et finalement, quand on lit la chose, on se dit, mais c'est pas moi, Ivan Illich. Mais est-ce que il faudrait pas réfléchir, se dire, c'est aussi moi. Mm-hmm. C'est aussi moi. Et on peut revenir au début du roman.
Oui.
Quand la lecture qu'on avait fait Anne, elle parlait de Piotr Ivanovitch, le collègue.
Ah oui, c'est le fameux. C'est
le fameux collègue. Oui. Il dit, c'est la femme de Ivan Illich qui lui raconte. Elle lui dit, il a beaucoup souffert ces trois derniers jours. Mm-hmm. Il dit, elle lui dit, ah bon ? Enfin, le collègue dit, ah bon ? Elle lui dit affreusement, il n'a cessé de crier et il était conscient. Il a même dit que le petit, etc. Et puis son collègue, à un moment, il dit. Ah, en fait, alors je vais vous lire, il vaut mieux que je lise plutôt. Mmh. Il dit, mais aussitôt, sans qu'il s'en rendît même compte, trois jours de souffrance terrible, ouais. Puis la mort. Mais cela peut m'arriver aussi, à chaque instant, tout de suite, songea-t-il. Et la terreur le saisit. Mais aussitôt, sans qu'il s'en rendît même compte, il fut secouru par cette pensée fort ordinaire que celle-là était arrivée à Ivan Illich et non pas à lui. Que cela ne devait ni ne pouvait lui arriver, qu'en pensant à ces choses, il se laissait aller à des idées noires, ce qu'il fallait éviter, ainsi qu'il avait dit clairement le visage, etc. Donc, il y a l'idée de tant que ça ne m'est pas arrivé, je peux me tranquilliser. Hein. On connaît les pages que Pascal a, le divertissement, etc. Oui, Anne ?
Alors, je disais qu'on parlait du pardon.
Oui.
Moi, je me demandais s'il n'y avait pas aussi le pardon vis-à-vis d'Ivan Illich. Mm-hmm. Parce que quand tout d'un coup, il y a cette force inconnue qui vient et qui le frappe,
oui.
C'est une force inconnue qui peut être quelque chose comme un petit peu, tout d'un coup, la vérité qui se révèle à lui. Mm. Et finalement, il accepte sa mort. Il a une bonne vision de ce qu'a été sa vie. Et finalement, c'est comme une forme d'absolution aussi. En pardonnant aux autres, quelque part, il s'absout aussi quelque part peut-être de ce qu'il a fait de mal.
Très juste, voilà. Très juste, très juste. Et peut-être que lui aussi, dans ce rapport de haine, etc., il a aussi peut-être senti quelque chose. C'est que... toute société met des obstructions entre les personnes, Hein. On est tous...
un problème de communication.
C'est ça. Fait. Alors, justement, est-ce que c'est un problème de communication? Je crois que la façon dont tu le dis, Annie, c'est une façon moderne de le dire.
Oui.
Mais comment on pourrait le dire? C'est que il y a une distance naturelle entre les êtres. Et,
c'est un problème d'empathie, plutôt,
qui
est absente tout au long de cette histoire. Il n'y a pas d'empathie, à part Gerasim.
À part Gerasim,
Gerasim.
Qui respire la bonté, qui est quelque chose proche de la terre, du naturel,
qui
etc.
Qui accepte le corps.
Qui accepte le corps, exactement.
Oui. Et d'ailleurs, qui incarne un peu dans le roman, je trouve, le rôle des soignants actuels.
Oui, c'est exactement ça, qui fait des tâches qui sont
pas
drôles.
Parce qu'il n'est pas de la famille. Hein,
Oui, c'est intéressant cette position. Ça, c'est intéressant. Et ça veut dire que dans la famille, il n'y a pas de relation authentique, au fond.
Peut-être justement pas la famille qui peut faire ça, en fait.
Elle ne peut pas faire ça.
Peut-être que c'est ça aussi, le truc. C'est que la famille est trop proche, d'une certaine façon, de la personne. Enfin bon, après, ça dépend. Ça peut être une, je dis ça à chaud, hein, mais peut-être que justement c'est pas forcément quelqu'un de la famille qui aurait pu faire ça.
Oui. Et puis il y a ce moment où la fille elle veut quand même aller au bal, par exemple. Il y a des moments et où lui il reçoit très mal cette chose-là, mais en même temps on peut la comprendre.
C'est-à-dire qu'elle est dans la vie.
Elle est dans la vie, elle peut pas s'arrêter.
C'est pas si scandaleux.
C'est pas si scandaleux que ça, effectivement.
Il y a toute une réflexion, d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure aussi dans le roman, sur justement le temps passé à construire quelque chose qui est finalement peut-être pas si utile que ça. Il parle beaucoup de la carrière dans le... C'est étonnant quand même qu'il insiste beaucoup sur la carrière de Ivan Ilitch.
Oui, la carrière.
Et en fait, on s'aperçoit que finalement, ça compte pas beaucoup, parce qu'à la fin, il se dit que sa vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être.
En fait, il décricote tout ce qui a été fait.
C'est un peu l'illusion.
Un pull qui se redéfait et on n'a plus que le fil. Alors, je voudrais, comme le temps nous presse, je voudrais vous prendre à chaud aussi, comme j'ai l'habitude de le faire, et vous faire lire. Alors bon, il y a un auteur qui a beaucoup consacré des pages, qui a consacré des pages célèbres à la question de la mort, c'est Martin Heidegger. Dans son ouvrage « Être et temps », il fait une description justement phénoménologique, c'est-à-dire droit au phénomène, comme le fait le Tolstoï, sans avoir d'idée préconçue ou scientifique ou préétablie de la mort. Et voici ce qu'il nous dit. « Le trépas qui, sans délégation possible, est essentiellement à moi, et reconverti en un événement se produisant publiquement qui rencontre le on. » Alors le on, c'est justement pas moi, c'est on meurt,
groupe, oui.
On meurt.
L'ensemble, oui, ou l'ensemble.
C'est l'ensemble, c'est tout ce qui n'est pas proprement moi. La façon d'en parler, qui a ce caractère, parle de la mort comme d'un cas se produisant constamment. Le on donne le droit de se dissimuler l'être vers la mort en ce qu'il a de plus propre. Et il augmente la tentation de se le dissimuler. Donc c'est traduction de François Vezin, chapitre 51. Voilà, il y a ce mot de dissimulation. Moi j'ai lu ce texte de Tolstoï comme... l'impossibilité à un moment donné qu'un être humain de se dissimuler son être propre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Alors, ça dépend de quoi on parle. Enfin, s'il parle de dissimulation de la mort, c'est ça?
Oui, enfin, alors, de ce que nous sommes véritablement.
Des êtres pour la mort.
Ça dépend.
Oui, vers la mort. Alors justement, c'est la fameuse débat qu'il ne faut pas dire pour ou vers, parce que pour, ça fait un peu trop sacrificiel, etc. Mais vers, voilà, quelque chose qui est tendu vers. Est-ce qu'on avait vu aussi chez Montaigne, quand on discutait de Montaigne?
Oui, dans la phrase de Victor Hugo, là, qui nous avait un peu choqué, là.
Oui. Dès qu'un
an.
Dans le bébé, voilà, c'est ça.
Dans le berceau du bébé, il y a déjà la mort.
C'est ça.
Quelque part, cette dissimulation, elle est c'est un secret de Polichinelle, bien entendu, mais elle est nécessaire, je pense, pour aussi se projeter dans la vie. Parce que si on ne fait que penser à sa mort, est-ce qu'on peut encore vivre? C'est-à-dire que c'est compliqué.
Ça nous détruirait.
Et peut-être que c'est un mécanisme nécessaire aussi pour pouvoir justement quelque part oublier ce phénomène, enfin cet acte, enfin cet événement qui arrivera de toute façon. et pouvoir justement se projeter dans autre chose.
Cela dit, moi j'entends autre chose aussi, c'est que par exemple en ce moment on parlait du coronavirus, nous sommes sans cesse assaillis par les chiffres. Mais justement, quand on disait dans cette phrase, c'est le on, c'est le on. C'est merci le on. Annie. C'est le chiffre, c'est le on.
Eh ben oui.
C'est vraiment pas toi, c'est pas moi, c'est le syllogisme dont tes questions, c'est la chose qui ne doit pas m'arriver. Anne, tu as commencé, on te donne le mot de la fin parce que c'était toi qui nous a traîné. Mais quelle est la chose qui t'a le plus touché dans ce roman? Qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants, que les générations retiennent d'une lecture éventuelle de ce roman?
Ah, c'est terrible comme question, parce que j'ai justement parlé de toute sa richesse, donc en noter quelque chose, ça me paraît presque sacrilège. Donc je vais, moi, retenir non pas la mort, mais la compassion.
Oui.
Oui, et finalement, qu'est-ce qui compte dans la vie? Peut-être que justement, on ait cette compassion les uns vis-à-vis des autres et le fait qu'on est tous égaux vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la souffrance et de la mort et qu'on a tous besoin des autres.
Oui, tu veux dire qu'au cours d'une vie, on peut avoir l'envie de se placer au-dessus des autres ou, comme le disait Camus, pour échapper au jugement, rentrer dans ce jeu de hiérarchie, etc. Et qu'il y a ce travail de vérité à travers...
Alors, il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'était la notion de dignité. Et je pense que s'il y avait quelque chose à creuser là, qui était très important...
Eh bien, voilà.
Parce que, voilà.
Ouais, c'est une excellente piste pour nos prochaines émissions des Neveux de René. Peut-être discuter de ce thème avec Kant, la notion de dignité.
Mais je pense que, justement, ça n'est pas du tout dans le sens... Peut-être de Kant.
Ah bah voilà, bon, voilà. Bah, thème à débattre et à continuer. Merci Annie, merci Anne, merci Sylvain, merci Antoine Honora pour la réalisation de l'émission. Et puis, on donne rendez-vous à nos auditeurs, peut-être dans quelques semaines, pour la suite des Neveux de René. Et enfin, avant de nous quitter, je voudrais dédier cette émission à François Fédier, qui fut un grand professeur de philosophie, qui a formé toute une génération de philosophie et qui nous a quittés la veille de l'enregistrement de cette émission.